quand je me suis agenouillé, j'ai regardé un peu ce côté, comment il allait faire. Quand il est arrivé devant moi, il s'est arrêté. J'ai fermé les yeux, il dit, ça y est, c'est ma fête. Attention les yeux. Et ça venait pas, l'hostie. Alors j'ai levé le nez, il avait l'hostie à la main, et il me regardait avec un gros sourire et une grande intensité. Et très lentement, il a fait signe de croix qu'avec l'ancienne formule que le Seigneur, le corps du Seigneur Jésus-Christ garde ton âme pour la vie éternelle. Et tout doucement, il a déposé cette hostie sur mes lèvres, avec une petite tape amicale sur la joue. Ah bon? Les gens regardaient ça, étonnés. Moi aussi d'ailleurs. À ce moment-là, je me suis dit, eh ben, il faut aller te confesser maintenant. J'ignorais totalement, j'avais complètement oublié cette histoire qu'il fallait se confesser, qu'il fallait faire la queue, avoir des tickets comme à la banque. Je suis arrivé comme une fleur là-dedans, dans la sacristie, et je me suis aperçu qu'il y avait un passe-droit. C'est-à-dire que chaque 5 civils, on mettait un habit religieux. 1, 2, 3, 4, 5, moi. 1, 2, 3, 4, 5, monseigneur. 1, 2, 3, 4, 5, un autre prêtre, etc. Donc j'ai préparé ma confession quand Padre Pio est arrivé dans ce petit confessionnal des hommes dans la sacristie, un petit prie-dieu d'à peu près même pas un mètre de diamètre. Lui était assis sur une chaise en paille à côté de la genouilloire, les deux pieds sur la genouilloire, accoudé sur la coudoir, et nous on était à genoux à côté de ses pieds, à côté de lui, pratiquement front contre front, c'était impressionnant. Alors il commence à confesser 1, 2, 3, le quatrième ils sont irlandais, le cinquième il se fait flanquer dehors, famille. Dis-moi, c'est juste après moi, qu'est-ce qui va se passer? Au secours Seigneur, à te compter sur modèle réduit, 3e édition, on n'a pas le temps de dire toute la formule. Et je suis rentré, et je lui ai dit, il m'a fait un petit sourire. Je lui ai dit, père, sono français, je suis français, ben, quoi te fais-tu? Qu'est-ce que t'as fait? En latin. Ben, je lui ai dit, non, ben, moi, je parlais italien, je comprends. Cosa hai fatto? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai tout oublié. Et Padre Pio me met la main autour du cou comme ça, puis fait, ma fate coraggio, prends courage, qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas. J'ai un trou de mémoire, et je commence à paniquer. Mais, rappelle-toi un peu, cherche. Qu'est-ce que tu as fait? Père, je ne me souviens de rien. J'ai la tête vide. Alors je me suis dit, après t'as l'air idiot, faut dire quelque chose. J'ai dit, père, j'ai fait telle et telle chose. Je dis, oui, c'est vrai. Seulement, t'as oublié que c'était pardonné vendredi dernier, ça. Ça a été pardonné vendredi dernier. C'était vrai. Il me dit, rappelle-toi, il y a 2 ans, tu étais dans le milieu de la France, il s'est passé ça, ça et ça et ça. Vous étiez 6, il y avait un tel, et toi. Et il s'est passé une chose qui n'a pas plu beaucoup au Seigneur, il en a souffert un peu. Qu'est-ce qui s'était passé? J'avais terminé mes études. La première à la terminale, j'avais été fatigué. Donc j'étais allé au petit séminaire Saint-Paul de Cannes. Et puis mon Dieu, pour fêter la fin de la première, on avait fait une foire pas possible à 6, dans les rues de Cannes, en dérangeant toutes les bonnes bourgeoises qui étaient là, en hurlant dans les coups de coupe, puis on a pris le bain de minuit avec tout le rituel que ça impose. Ceux d'entre vous qui ont fait le service militaire, ils savent très bien ce que c'est que le bain de minuit. On n'a pas grand-chose à faire sécher après, d'ailleurs. Et ça, Padre Pio m'a expliqué ça. Ah bon? Il m'a dit, bon, le Seigneur t'a pardonné. Ouf! Bon. Alors je t'ai dit, père, je recommande à la personne qui m'a payé ce voyage, elle m'a dit de vous dire qu'elle a perdu la paix pour je ne sais plus trop quoi. Elle demande quelques mots de vous. Il se recueille, puis il me sort 4 mots. J'ai sorti mon petit crayon, mon petit calepin, j'ai dénoté, ça n'avait aucun sens pour moi, mais la brave dame était heureuse comme tout, après. Seulement, après, il me dit, si père, je me recommande à votre prière parce que je suis étudiant à l'université grégorienne à Rome, les cours sont en latin, c'est pas facile. Mais le Seigneur t'a appelé. On était là le 2 octobre, fête de quoi? Des anges gardiens. 2 octobre, 55. Alors il dit, père, je me recommande à votre prière. Il dit, le Seigneur t'a appelé. Si vous en êtes sûr, qu'est-ce que je n'avais pas dit là? Te lo dico io, je te le dis moi. Et tu seras prêtre, ordonné prêtre, le 30 juin 1962. Il dit, ça c'est un fou. Il est malade. Au secours, parce qu'on était en 55, 62, c'est trop long, trop loin. Et puis, 29 juin, d'accord, c'est Saint-Pierre-Saint-Paul, mais 30 juin, ça n'a pas de sens. Seulement, il savait une chose que je ne savais pas, que la République française m'aurait payé quelques mois en vacances de l'autre côté de la Méditerranée, là-bas, avec un certain nombre de joujoux dans les mains, pour tuer les Arabes, guerre d'Algérie, que ça m'a fait perdre 3 ans, et que mon année d'ordination était 62, il y a 40 ans. Et que cette année 62, le 29 juin, c'était la fête du Sacré-Cœur, qui avait repoussé d'un degré la fête de Pierre et Paul, 30 juin 62, Saint-Pierre-Saint-Paul. Quand je ne parlais plus, on m'a dit, oh, te l'avais dit, non, te l'avais dit, non. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors, à ce moment-là, il fait, est-ce que tu crois ton gardien? Je lui dis, vous savez, mon père, non, non, mais il dit, je ne t'ai jamais vu mon ange gardien. Hein? J'ai jamais vu mon ange gardien. Ah, tu l'as jamais vu. Il est pourtant là derrière toi, là. Il est grand, il est beau. Il regardait quelqu'un là. Je me suis retourné, j'ai rien vu personne. Seulement quand je suis revenu, ma figure contre la sienne, je me suis aperçu que son visage était illuminé d'une étrange lueur et qu'il avait dans les yeux le reflet de l'ange. Mais avant, quand je lui ai dit que je n'avais jamais vu l'ange gardien, il m'a flanqué la paire de gifles, les deux paires de gifles les plus monumentales de ma vie, les plus spectaculaires. Oui, il m'a pas fait très mal, il avait les mains blessées, mais il m'a frappé avec les poignets, là, pan, 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 pour me faire comprendre qu'il y avait des choses à pas dire. Voilà. Et alors après, quand je suis sorti de dedans, je me suis appuyé quand même sur le mur, pour reprendre les esprits. C'est un peu impressionnant, hein. Et le capuchin qui montait la garde, il me fait, avait fonctionnato, ça avait fonctionné, ou il y a pas ça, à peu près. Puis, après, je me suis dit, bon, je suis venu hier, j'ai vu Padre Pio, j'ai assisté à sa messe, j'ai communié de sa main, je me suis confessé. Eh bien, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Tout à l'heure, il va sortir pour aller dans l'église confesser les dames. Je vais donc le prendre. Je vais lui demander sa bénédiction parce que je vais prendre un quart dans une heure à Foggia, pour aller à Foggia. Et de là, le train pour Rome, j'avais un examen encore à passer à Rome. Quelques minutes après, il sort. Alors je l'aborde, il dit, Père, je me recommande à votre prière, parce que je dois partir à Rome. Perché Roma? Pourquoi Rome? Ta maman t'a dit de rester 2 jours, tu partiras demain. Ma mère m'avait dit ça, et lui ne le savait pas. Et le lendemain, à un même moment, je l'attends, il y avait 2 jours de passé, alors il m'aborde, il vient vers moi avec les mains étendues, puis il me serre sur son cœur, il m'embrasse. Être après embrassé par Padre Pio, c'est pas rien. Alors j'ai fondu comme beurre au soleil, je me suis mis à genoux par terre, et à ce moment-là, il m'a mis à poser les mains très fort, il a senti cette même décharge électrique, il m'a pris la figure dans les mains, dans ses mains, les mains sur les 2 joues, et il m'a dit, je te prends comme fils spirituel, j'ai rien demandé. Je te promets assistance, sempre, dovunque, toujours et partout. 2 fois, elle répétait ça. Je te suivrai toujours, je ne te quitterai jamais, même après la mort, parce que tu es le fils de mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, c'est bon, je commence à savoir. Et puis là, je suis toujours avec toi, sono sempre con te, je suis toujours avec toi. Effectivement, bon, je suis parti. Il a toujours été avec moi. Toujours. Alors, j'ai vu les stigmates, mais je me suis dit, il faut quand même que je trouve quelque chose à Rome pour comprendre un peu les phénomènes dans ce que cet homme-là montre. Stigmates, bilocations, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je me suis aperçu à l'université grégorienne que pour avoir le droit au titre de diplôme en philosophie, il fallait suivre 2 cours particuliers, cursus peculiares. L'un, c'était l'archéologie, que j'ai suivi avec beaucoup, beaucoup de joie, parce que j'ai fait partie de l'Institut Pontifical d'Archéologie Sacrée, à ce titre-là, j'ai travaillé dans les fouilles de Saint-Pierre, et j'ai eu dans mes mains la tête de Saint-Pierre. Belle tête. Et puis, l'autre, c'était le cours d'ascétique et mystique, c'est-à-dire qui tous ces phénomènes-là, et c'est là que j'ai compris comment fonctionnait du moins les charismes de Padre Pio. Et c'est à cette lumière-là qu'on lit dans la vie de Padre Pio, deux fois de suite, par calomnie, il a été séquestré pendant 2 ans, privé de dire la messe en public et de confesser, donc il a lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc il a lu Saint Jean d'Aquin, Saint Thérèse d'Avila, il a lu Saint François de Sales également, il a lu tout la Divina Commedia de Dante Alighieri. Et quand j'ai écrit ce livre, le gros là-bas, qui est la vie de Padre Pio à travers ses lettres, c'est-à-dire l'évolution de son âme, j'ai écrit ce livre avec la lumière de la cité mystique, avec l'explication de ces 3 pères spirituels, maîtres spirituels, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et François de Sales, qu'on trouve dans ses lettres des passages entiers de ces 3 saints-là. Donc il m'a fait comprendre qui il était. Alors la question qui se pose, c'est pas tout ça, j'étais un peu long exprès, pour montrer un peu quel point Padre Pio était un être humain, vraiment. Humain et paternel et par moments bourru par moments. À un moment donné, quand je me suis dit, mais on dirait un ours mal léché, j'ai dit plusieurs fois en rentrant en France, pour moi c'est un ours, hein, il hurle, il crie, bon. Puis je me suis dit, non, c'est pas respectueux, je ne le dirai plus. Seulement, une dizaine d'années après, je l'ai photographié avec un flash. Et j'ignorais qu'il aimait pas ça. Il s'est mis à crier, oh, qui a frappé, qui est-ce qui a fait ça? Et, père, c'est moi. Ah, c'est toi. Fortunato, hein, t'as de la chance. Mais que cosa volé? Qu'est-ce que tu voulais? La photographie d'un ours? Et le père Pellegrino, qui l'accompagne, m'a dit, rimane quoi, reste là, je t'en vois. Quand il est revenu de l'accompagner Padre Pio dans sa cellule, il est venu me voir, il m'a dit, t'as entendu ce qu'il a dit, le père? Oui. Il a dit, qu'est-ce que tu voulais, la photographie d'un ours? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas ce que ça veut dire. Dis-moi, je comprends très bien. Il lui a raconté ça, il s'est mis à rire pour ce qu'il savait. La question qui se pose, c'est pas ça. Des gens s'arrêtent là. Je peux arrêter la conférence ici, et je dirais, vous avez un flash, par les plus hauts. On s'arrête là, mais vous dormez, qu'est-ce que vous allez faire? On continue? Parce que le principal, c'est pas ça. C'est très secondaire, ça. La question qui se pose, c'est pourquoi le Seigneur nous a-t-il envoyé à Padre Pio dans le dernier siècle dernier, parce qu'on est au 21e maintenant? Quel message il a à nous donner de la part de la part de Dieu? J'ai dit que c'était d'abord l'homme de la souffrance. La souffrance, on n'aime pas ça du tout. Et on dit souvent que Padre Pio était un doloriste, il aimait la souffrance pour la souffrance. Il n'y a rien de si faux. S'il avait été ami de la souffrance, il n'aurait jamais fait, ami de la souffrance, je veux dire, il n'aurait jamais fait un hôpital comme il a fait. Il ne s'est pas doloriste du tout, mais il savait que la souffrance que le Seigneur lui envoyait, ça avait un sens profond. Alors, pour comprendre ça, et pour comprendre les souffrances et les épreuves, c'est très facile. Parmi vous, peut-être, il y a des personnes qui font le catéchisme. Je vais donc vous expliquer ça, comment on explique ça aux des gamins de catéchisme. Alors, si les gamins de catéchisme comprennent, vous, bien plus, bien sûr. Dans l'Évangile, il y a un épisode que vous connaissez bien, parce que vous êtes des gens très bien, vous lisez l'Évangile tous les jours, vous le savez par cœur, même les Antillaises, là. Même à Fort-de-France, au Diamant, on lit l'Évangile, hein, c'est vrai. Il y a un épisode qui s'appelle le baptême de Jésus. Qu'est-ce qui se passe là? Quand je dirige des groupes en Terre Sainte, et je vais en diriger un encore au mois de deuxième quinzaine de juillet, si vous venez avec moi, vous venez, il n'y a pas de problème, je vous emmène avec joie, ça risque rien. On sait très bien où Jésus a été baptisé. On l'a localisé partout, à droite, à gauche. En fait, on a découvert Tel Shalem, le palais de Melchisedec, à 10 km au sud du lac de Tibériade, à côté de la ville de Bethshean. Là, il y avait une croisée de route, la route qui montait de Jéricho vers Tibériade et la route qui descendait de la Samarie vers ce qui s'appelle la Jordanie maintenant. Jean-Baptiste était là, il criait. Et voir crier Jean-Baptiste, c'est de ne pas être triste. Il criait, reportez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. Et derrière ce tel, il y a des grands étangs immenses qui font au moins 6 fois cette église, chacun, et au fond desquels il y a des sources qui jaillissent. C'est donc là l'un des affluents importants du Jourdain. Et spontanément, ces gens-là, quelques dizaines de personnes qui passent pas pendant une journée, et ça circule pas tout le temps, spontanément touchés par la grâce, vont se jeter dans l'eau, comme main de purification, comme s'ils étaient sales, ils vont s'approprier, ressortir propre de l'autre côté. Pourquoi les Juifs pensaient-ils qu'on jetait le péché dans l'eau, et que dans l'eau il y avait donc le péché, mais il y avait le démon aussi. L'eau étant le symbole du démon et en même temps le symbole de la vie. Lorsque Jésus marche sur l'eau, par exemple, c'est pas pour faire de l'équilibrisme, hein, mais c'est qu'il va, il y a toujours une tempête assez impressionnante tous les soirs vers 4-5 heures sur la de Tibériac qui est très peu profond. Maintenant on sait que c'est dû à la différence de pression entre la Méditerranée et le lac de Tibériac qui est à moins 292. Et en fait, l'agitation est là, et ces gens contemporains de Jésus ne comprenaient pas pourquoi. Donc s'imaginaient que l'enfer ouvrait ses portes au fond de l'eau et que les démons sortaient pour flanquer une vieille raclée au fond qui avait pour effet d'agiter le sommet de l'eau. C'était pas compliqué. Il n'avait pas grande science à avoir. Et Jésus va utiliser cette croyance qui est fausse pour le faire comprendre autre chose. Les Juifs comprennent, les apôtres comprennent bien qui c'est celui-là, à qui même les démons obéissent, qui leur marche sur la tête. Donc ces gens-là vont jeter leur péché dans l'eau. Depuis quand les Juifs pensaient-ils que l'eau était le résultat du démon? Comme vous êtes des gens très bien, que vous lisez la Bible tous les jours, vous savez qu'au fond, à la fin de l'Ancien Testament, il y a un livre qui s'appelle le livre de Michée, prophète Michée. Juste avant, presque, il y a encore un ou deux livres après, mais avant le premier évangile. Et l'avant-dernier verset du prophète Michée, retenez bien sa père, l'avant-dernier verset dit, et Dieu jette, ô Dieu, jette notre péché dans la mer. C'est pour ça que les Juifs pensaient que l'eau était le réceptacle du démon. Alors ils sont là, ils sont propres. Bien. Jésus arrive. Jean le connaît bien. C'est son cousin. Mais Jean sait très bien qui il est. Pourquoi? Parce que sa mère, qui s'appelle Élisabeth, quand elle a reçu, il y a 30 ans avant, la visite de la petite Marie de Nazareth, elle était enceinte de Jean-Baptiste de 6 mois, et Marie, la petite Myriam, 14 ans, avait en elle le petit embryon de Jésus. Mais Jésus était là. Et que, poussée par l'Esprit Saint, Élisabeth va dire, Marie, tu es bénie entre les femmes. C'est-à-dire, Marie, tu es une femme, oui. Mais parmi les femmes, tu es la femme par excellence. Celle qu'on voit au livre de la Genèse, qui doit écraser la tête de Satan. Celle qu'on verra 2 fois de suite, figurée sous les traits de la reine Esther, de Judith, qui l'une et l'autre vont défendre leur peuple. Celle qu'on verra à Cana. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Celle qu'on verra au calvaire. Femme, voici ton fils. Celle que Jean contemplera dans la grandiose vision de Patmos, la femme revêtue du soleil. Bon. La femme. Et le fruit de tes entrailles est? Non, c'est faux. En hébreu, c'est Akadosh. Le béni. Or, le béni, c'est un nom de Dieu. Autrement dit, poussée par l'Esprit Saint, Élisabeth va dire cette chose énorme. Marie, tu es la femme qui porte en elle Dieu. C'est énorme. Et comme si elle s'était rendu compte de l'énormité de ce qu'elle a dit, la phrase suivante donne l'explication. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Jean le sait, ça. Mais il sait aussi que 6 siècles avant, il sait que c'est le Messie, Fils de Dieu. Dieu lui-même incarné, il le sait, avec le témoignage de sa mère. Mais il sait aussi que 6 siècles avant, Isaïe avait prophétisé de ce Messie sous les traits d'un serviteur souffrant, muet comme une brebis devant ceux qui l'attendent, muet comme un agneau que l'on mène à la boucherie, survivre à cause de nos iniquités, nous sommes écrasés, il est écrasé par notre péché, et nous sommes guéris par ses blessures. Il y a donc un lien entre le péché et la souffrance. Quel est ce lien? Qu'est-ce que c'est qu'un péché? Moi, je fais des fautes, vous peut-être pas. C'est vrai, hein, puisque vous dites rien. Bon, on fait tous des péchés. Puis on a tous des petits péchés mignons qu'on aime bien. Le Père est capable de dire ça. Péché mignon, vous savez, que quand on va se confesser, on dit à la suite des autres, à la fin, à mi-voix, pour ne pas que le confesseur l'entende. Mais la grâce à sa totale fait que, à ce moment-là, les oreilles se délient, c'est celle-là qu'on comprend. Les autres, non, mais celui-là, on entend mieux. Bon, soyez tranquilles. Et alors, en fait, le péché, c'est un acte humain. Un fou ne pêche pas. Un bébé ne pêche pas. Mais c'est un acte humain responsable. Or, l'homme, quand il agit toujours pour son bien. On ne va jamais faire quelque chose qui nous ennuie, c'est évident. Depuis le gamin qui va casser un carreau dans la classe, et le maître, complètement en colère, ça va plus l'hiver, il fait moins 15 dehors. Qu'est-ce qui a cassé ça? C'est toi qui as cassé ça? Non, monsieur. Il sait très bien que c'est lui. Il sait très bien qu'il fait un mensonge. Mais qu'est-ce qu'il cherche? La tranquillité. Le voleur qui va faire hold-up, va tuer trois personnes, il cherche quoi? Quelques billets. Il pense pas encore à quelques mois de vacances qu'on va lui offrir après, peu importe. Enfin, on cherche toujours son bien. Donc, le péché, ça nous arrange. Pas vrai? Par moment. Ça nous fait plaisir. Alors, j'écris sur un tableau, péché égale. Égale quoi? Plaisir. Péché égale plaisir. Dieu n'est pas d'accord. Péché égale plaisir défendu. Or, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont fait quelques études de physique, mais en physique il y a une loi qui dit à toute action correspond une réaction égale et contraire. C'est-à-dire que toute action est réparée par l'action contraire. Pour faire comprendre ça aux gamins, vous dites, il faut toujours faire rire un enfant au catéchisme. Ce que l'enfant apprend en riant, il le retient toujours. Alors, j'ai écrit péché égale plaisir défendu. Au gamin, vous dites, tu flanques un grand coup de poing dans la voiture de ton père, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un creux. Pour réparer ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? De quoi s'il va vers 10 secondes, ben, un coup de poing dans l'autre sens. C'est évident. L'action réparée par l'action inverse. J'ai écrit péché égale plaisir défendu, réparation égale plaisir déplaisir. Qu'est-ce qui me déplaît le plus? La souffrance. Physique, morale, intellectuelle, spirituelle. Défendu, accepté. Qui doit réparer? Moi. C'est moi qui ai fait la bêtise. Sauf si je suis insolvable. Et pourquoi serais-je insolvable? Parce que la personne offensée est trop grande. C'est Dieu. Donc vous allez enlever de votre crâne cette idée qui vient du jansénisme. Péché véniel, péché mortel, péché moitié véniel, péché moitié mortel, péché trois quarts véniel, trois quarts... Ça n'a aucun sens. Le péché, c'est un acte humain, volontaire, responsable, contre Dieu qui est infini. La gravité du péché, forcément, est infinie. Donc, seulement quelqu'un qui peut, qui est un être humain, donc qui peut m'aider à porter ma valise, ou qui peut peut-être prendre sur lui mon péché, va pouvoir offrir à ma place une souffrance auquel il doit donner une valeur infinie. Celui-là, il s'appelle Jésus parce qu'il est homme et Dieu. Pour expliquer ça aux enfants, vous dites, voilà, encore un autre exemple, dans une famille, il y a deux enfants, il y a un grand et un petit, le petit fait des bêtises, comme toujours. Alors il a une peur bleue, le pauvre gamin, de se faire enguirlander par son père. Alors il tremble toutes ses feuilles, il y a le grand frère, lui dit, écoute, tu dis rien, je t'aime bien, t'es mon petit frère. Tu dis rien, je vais dire à papa que c'est moi qui fais la bêtise. C'est moi qui vais ramasser la gronderie, c'est moi qui vais ramasser la sanction. Ça, tu dis rien. C'est normal, ça se trouve, ça. Le grand frère, c'est Jésus, le petit, c'est nous. Jésus prend sur lui notre péché, comme si c'était lui qui les avait commis. Et comment ça va se faire, ça? Il descend, il demande à Jean-Baptiste, « Baptise-moi. » Et l'autre, « Ah non, Seigneur, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt à toi de me baptiser. » Et l'apôtre Jean, qui raconte ça, raconte ça de façon très belle, Jésus lui dit, « Va, il faut accomplir toute justice. Il faut que tu ajustes ta volonté à la mienne. » En fait, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ferme-la et fais ce que je te demande. C'est ça que ça veut dire. Et Jésus va rentrer dans la symbolique des Juifs qui ont mis leurs péchés dans l'eau. Il va les chercher, il va les prendre sur lui, comme si c'était lui qui les avait faits. Et il devient ce moment-là rédempteur, entériné par la voix du Père, qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », par la descente du Saint-Esprit telle une colombe, c'est pas une colombe, c'est pas un pigeon, hein. La chasse est pas ouverte. Quelque chose qui se passe, qui voit. Bon. Et il devient rédempteur. Il va mener sa vie pour que ça arrive au calvaire. Je vous fais un cours de catéchisme là, et peut-être vous pensez, mais il est parti très loin de Padre Pio. Non. Je suis tout prêt. Parce que si vous comprenez tout ce que je vous dis là, vous avez compris ça. Petit à petit, vous allez découvrir qui est Padre Pio. Donc, il va mener sa vie de Seigneur jusque d'abord au Jeudi Saint. Et le Jeudi Saint, qu'est-ce qui va se passer? Il va, lui qui est la parole créatrice du Père, incarné, j'ouvre une parenthèse, qui est Jésus? Madame, vous avez, vous, Geneviève, vous avez fait le déjeuner à midi? Oui. Quand vous êtes levé ce matin, vous avez pensé, qu'est-ce que je vais lui faire à manger? À lui, à l'enfant. Et vous avez échafaudé dans votre tête tout un cinéma. Et vous avez pensé avec des mots. Je vais me lever, je vais aller voir chercher le boucher, je vais acheter ceci. Non, j'ai acheté ça. Et puis je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez tout un discours, non? Et on raisonne avec des mots humains. Et ces mots, ça s'appelle la parole intérieure, le verbe intérieur. Jésus qui est-ce? C'est le verbe intérieur du Père qui s'incarne. C'est autre chose, hein? C'est pas un autre Dieu, c'est la parole créatrice, si vous voulez. Alors, il arrive au Jeudi Saint. Jeudi Saint, il commence d'abord d'une chose curieuse à, par un lavement des pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis il y a des gens qui disent, mais bon sang, il y a des intégristes qui disent, ah, oh, vous rendez compte, il leur a donné le pain consacré dans leurs mains, mais leurs mains n'étaient pas consacrées, c'était pas des prêtres. Si. Pour avoir l'explication, vous allez dans la Bible, je crois que c'est chapitre 24, il me semble bien, chapitre 24 de l'Exode, où on voit que Moïse est chargé par, que Yahvé demande à Moïse de nommer son frère Aaron et ses deux fils comme prêtres du Très-Haut, hein. Et qu'est-ce que fait Moïse? Il commence d'abord par leur donner un bain. Mettez ça en rapport avec le lavement des pieds. C'est la même chose. Je pense que c'est l'ordination sacerdotale, un des rites. Et alors c'est drôle, c'est que le Pierre, qui est le patron, le premier pape, savait peut-être que les évêques, dans l'ancien rite, avaient les mains consacrées, et la tête aussi, maintenant il n'y a plus que la tête qui est consacrée. Les mains, ils sont déjà pour l'ordination. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il dit Pierre? Pas seulement les pieds, mais les mains et la tête. C'est quand même drôle, ça. Bon, ils sont probablement prêts à ce moment-là. Jésus va prendre du pain et du vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le corps, le sang, c'est pareil. Père, je te donne ça. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme opposition entre le Père et sa parole? Il n'y en a pas. Mais il faut jouer le jeu de la rédemption. Alors, à ce moment-là, le Père va tisser, si on peut dire, un lien d'amour entre lui et cet homme, qui en même temps sa parole créatrice s'appelle Jésus, Yeshua, sauveteur, quelqu'un qui va plonger dans l'eau pour chercher à noyer. Et Jésus va donner ce pain et ce vin à manger et à boire aux apôtres qui comprennent rien du tout, ils n'ont rien compris. Seul Jean a compris quelque chose parce que c'était plus jeune, 14 ans, et il était le moins tordu de la bande, il avait eu des leçons particulières de Jésus et de Marie. Il a compris, mais Pierre, personne ne comprenait rien. Même l'apôtre Philippe, après 40 jours d'apparition après la résurrection, 2 minutes avant l'ascension, il tape sur l'épaule du Seigneur, c'est le nom qui va rétablir le royaume d'Israël, que tu vas chasser les Romains. Jésus ne répond même pas. Il dit, allez là-bas, dans la maison, vous allez recevoir une force. Un bon coup de Saint-Esprit, ça va balayer tout ça. Ils ont compris à ce moment-là qui était Jésus. Encore, enfin. Alors, il donne ce pain et ce vin consacré à manger et à boire. Ce qui fait que les apôtres sont imprégnés de cette vie divine, sans qu'ils le sachent d'ailleurs, sans qu'ils s'en rendent compte. Peut-être sentent-ils quelque chose à l'intérieur d'eux. Mais ils perdent pratiquement leur identité. Pierre s'appelle Jésus, Jean s'appelle Jésus, Matthieu s'appelle Jésus, Simon s'appelle Jésus. Et le Père du Ciel, voyant son Fils, il le voit en un, Jésus, et puis les 12, 13 morceaux. Il y a même Marie qui a certainement pris un morceau, mais qu'il n'a pas mangé. Pourquoi ? Quelle différence il y a entre le pain consacré, corps de Jésus, et le corps de Marie ? Rien, c'est la même chair. Jésus n'a pas de père, non ? L'hostie consacré, c'est Marie aussi. Hein ? C'est Jésus, mais c'est la chair de Marie. Mais elle l'a gardée, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. C'est important. Et alors, ils leur disent, mais on a fait ceci en mémoire de moi. Et en mémoire de moi, alors il y a des gens, des prédicateurs ou des catéchistes qui essayent de faire comprendre aux gamins que c'est un souvenir comme celui qu'on met, on met une gerbe au monument aux morts, souvenir des morts de 14, 18 ou je ne sais pas de quand. C'est complètement faux. Le mot mémoire est un mot qui a évolué pendant 20 siècles. Au temps de Jésus, faire mémoire de quelqu'un, quelque chose, ça voulait dire continuer une action. Par exemple, imaginez dans une école professionnelle, il y a un professeur qui est là, qui veut apprendre à un élève comment limer une pièce. Alors il montre comment on met la pièce dans l'étau, et puis après le professeur va prendre les deux mains de l'enfant ou du jeune, les mettre sur la lime, et puis lui il va mettre ses mains sur les mains du jeune, et il va imprimer le mouvement de limer. Donc, au bout d'un moment, le jeune, il va prendre ce rythme-là. Et au bout d'un moment, le professeur va dire, lâchez l'enfant, le jeune, va retirer ses propres mains et dire, continue ce que je fais. Jésus aurait dit, fais mémoire de ce que je fais. C'est le même sens. Vous comprenez ça? Ce qui veut dire qu'il n'y a eu qu'une seule messe, celle de Jésus, celle qu'on va, le Père et moi, on va célébrer demain matin à 10h au Carmel, c'est la même qui continue comme ça. Et le lendemain, il va mettre en œuvre ce sacrifice réel, mais symbolique, réel, sur le calvaire. Et sur le calvaire, qu'est-ce qu'il y a sur le calvaire? Il y a un homme cloué par 4 plaies vives, et on s'aperçoit à ce moment-là, moi qui ai bien connu Padre Pio, que je l'ai vu souffrir horriblement, pendant surtout la consécration, je vous dirai un peu plus tard après, vous voyez, c'est un homme qui est là, qui est en même temps le Fils de Dieu, la créature. C'est lui qui a tout fait, parole créatrice, et par lui tout a été fait, par Jésus, dans le sein du Père. Il sait très bien comment est fait le corps de l'homme, le cœur de l'homme, c'est lui qui l'a fait. Il sait très bien que quand l'homme se rend compte qu'il a fait quelque chose de grave, un péché, il y a un sentiment qui s'appelle le remords et le besoin de réparation. On a un exemple dans l'Ancien Testament, l'histoire de David, qui a son aventure avec Madame Bethsabée. Hein, quand on va en Terre Sainte, par exemple, et qu'on va sur l'Ophel et on voit le glacis, l'endroit où était fixé des maisons de Jérusalem, au sommet il y avait le palais de David, ben, il avait vu plongeant sur Madame Bethsabée, comment voulez-vous, cette jolie fille, comment voulez-vous que le pauvre David ne prenne pas feu, hein? C'est évident, non? Bon. Mais il s'est rendu compte que la gravité de son péché, qui maintenant passe pour même pas une erreur, hein? Bon, très bien. En fait, c'est ça. Mais enfin, malheureusement, lui, il le sait, et tout le monde sait qu'il a exprimé ça, son repentir avec cet admirable psaume miséréré, le 50, un peu moins savent qu'il a fait pénitence sur le sac et la cendre, il s'est imposé quelque chose de difficile, et puis encore beaucoup moins savent que ce péché lui a coûté la vie de cet enfant, il est mort. Salomon est le deuxième, c'est le survivant qui est devenu roi à la place de David en 950 avant Jésus-Christ, vous le savez bien. Donc il est là, Jésus, cloué sur cette croix. Mais il y a ce besoin de réparer quand même. Alors il y a l'amour de Marie, l'amour des apôtres, de l'apôtre Jean, il y a les saintes femmes, il y a les martyrs romains, les autres. Et puis, il y a Marie qui est là surtout. Alors vous, mesdames, qui avez porté des enfants, quand l'enfant était malade, vous étiez assis à côté de lui ou sur son lit, en vous demandant comment vous alliez faire pour soulager la souffrance de cet enfant. Non, c'est pas vrai? J'entends pas. Bon. c'est normal. Et si vous aviez pu, vous auriez pris sur vous cette souffrance, pour ne plus qu'il souffre, c'est vrai ou non? Ça s'appelle l'instinct maternel, ça. Eh bien, Marie au pied de la croix était une maman. Voilà pourquoi elle est co-rédemptrice. Pape Necker 25 bouquins là-dessus pour savoir qu'elle est co-rédemptrice ou pas co-rédemptrice. Marie, au pied de la croix, tu dis une maman. Bon, important. Et puis, il y a donc la souffrance des martyrs et tout ça. La souffrance du petit gamin à qui sa grand-mère va dire « Cousse, aujourd'hui, c'est vendredi saint. Ne mange pas de bonbons, offre ça à Jésus. » Dans sa générosité, le gamin va dire « D'accord. » Jésus, sur sa croix, devant lui, il y a deux plateaux d'une balance. Il y a le péché du monde. De l'autre côté, il y a sa souffrance rédemptrice, plus la souffrance de Marie, plus la souffrance de David, plus la souffrance des apôtres, plus la souffrance des martyrs, plus le sacrifice du petit gosse, plus la pénitence que je peux m'imposer, l'épreuve que je peux avoir en disant « Seigneur, j'ai une tuile, j'ai mal aux dents ou bien j'ai telle difficulté, je t'offre ça, j'unis cela à ta souffrance sur la croix. » Et je peux dire tout simplement que ma petite offrande aura permis à Jésus de moins souffrir sur la croix. Vous comprenez ça? Une question d'amour. Eh bien, Padre Pio, c'était sa mission. Il était un petit co-rédempteur à côté de la co-rédemptrice, à côté de l'unique rédempteur qui s'appelle Jésus, et nous entraîne à sa suite. Voilà la mission du Padre Pio. La messe qu'il célébrait, là-bas au fond il y a un petit livre orange qui s'appelle Padre Pio, témoin de Dieu, c'est quelques traits de ma rencontre avec lui. Et puis il y a le dernier chapitre qui s'appelle la messe Passion du Seigneur. C'est moi qui ai rédigé ça. En fait c'est lui qui me l'a dicté. Il m'a expliqué comment il disait la messe, comment moi prêtre je devais la dire, comment vous les fidèles vous deviez, non pas vous pouviez, mais vous deviez vous y unir, mettant en parallèle la chronologie de la croix, la chronologie du calvaire, de la passion et la chronologie de la messe si vous voulez. Comment finalement on va de l'offertoire jusqu'à la fin en suivant Jésus? Un signe de croix, c'est le mystère de la croix. Et on rejoint Jésus à Gethsémani, il l'a écrasé, c'est un homme. Il a mis toute sa divinité sous ses pieds, il en a fait, il l'a occulté, il a voulu être qu'un homme avec une sensibilité extraordinaire, écrasé par le péché du monde. Écrasé surtout parce que quand on lit l'Épître et l'Évangile, par exemple, on n'écoute jamais. Ou bien on va critiquer celui qui va lire, ah, il lit comme un pied, ou elle lit comme un pied. Et on ne sait pas, Padre Pio me l'a dit combien de fois, on ne sait pas que cet Épître, la première lecture, que de saint Paul ou d'un autre, qui est récité, qui est proclamé, ou que je lis, c'est une lettre de l'apôtre de la part de Dieu pour moi aujourd'hui. Et ça doit m'interpeller aujourd'hui, plutôt que de... Donc c'est important. Puis l'Évangile. Padre Pio pleurait toujours pendant l'Évangile. Un jour, je lui ai dit, mais père, pourquoi tu pleures tout le temps pendant cette messe, pendant cet Évangile? Et il a dit ça plusieurs fois, c'était raconté dans un autre article, mais il dit, mais ça te fait rien qu'un Dieu parle et que les gens n'écoutent pas. Ah, c'est vrai. Puis on arrive à l'offertoire. À l'offertoire, c'est l'arrestation de Jésus. Il offre son corps, la matière première. Puis ensuite, après, dans la messe, on a la préface. C'est le chant de louange. Bien, c'est le chant de louange, c'est pour illustrer la joie qu'a Jésus de son heure est enfin venue. Et puis après, normalement après le Sanctus que Isaïe avait entendu le jour de sa vocation comme prophète, Saint, le Seigneur. Il faut normalement, le prêtre devrait faire ça, lui m'a demandé de le faire, s'arrêter un petit instant, parce que avant de démarrer la pleure eucharistique, il faut visionner rapidement, par amour, dans notre tête et dans notre cœur, l'arrestation de Jésus, donc l'emprisonnement de Jésus, tout ce qu'il a subi dans cette prison, et puis ne pas oublier que Jésus avait occulté ses divinités, donc il a voulu réagir comme un homme, donc il a connu la douleur du fouet, de la couronne d'épines, c'est atroce. L'angoisse de la condamnation à mort, je dirais l'écrasement de la condamnation, la peine du portement de croix, et on arrive à ce moment-là à la consécration, qui est racontée pour montrer que le jeudi saint, vendredi saint, c'est les deux moitiés d'une même action, c'est raconté avec le récit du jeudi saint et la mise en œuvre, là, ceci est mon corps livré maintenant pour vous, ceci est mon sang versé maintenant pour vous. Et Padre Pio souffrait horriblement à ce moment-là, c'était le maximum de sa souffrance, c'est parce que la consécration, c'est l'enclouement, on est cloué. Et Padre Pio saignait horriblement, j'ai vu, moi, plusieurs fois, même un vendredi où il avait souffert épouvantablement, il avait les membranes qui couvraient les stigmates avaient sauté, et j'étais à genoux à côté de lui, et j'ai pu voir, ce qu'on n'oublie pas, à travers le trou de la main gauche, la flamme d'un cierge. Ça s'oublie pas, ça. La messe, alors après, Jésus est en croix, alors on le suit, la prière qui suit qui suit la consécration est toujours une offrande de Jésus, de la victime d'ailleurs, au Père. Et puis on arrive au par lui, avec lui, en lui, qui correspond exactement dans la chronologie de la Passion, où la dernière parole, Père, je remets mon âme entre tes mains. Dieu te reconnaît comme le Père. Et nous on dit par lui, par Jésus, avec lui, parce qu'on est accroché à lui, en lui, on est dans son cœur, on reconnaît Dieu comme Dieu, et on lui offre toute gloire, et on reconnaît comme le Père, et on lui reconnaît tout honneur. Et à ce moment-là, le sacrifice est accepté par le Père, le lien d'amour est tissé de nouveau entre le Père, Jésus, tout le monde, tous les frères. C'est pour ça qu'on est à ce moment-là de nouveau réunis ensemble et qu'on récite notre Père. Arrive un geste que beaucoup de prêtres ne comprennent même pas, ils font même pas attention, c'est la fraction de l'hostie. La fraction de l'hostie, moi j'ai lu des âneries épouvantables, j'ai lu par exemple un jour sur un livre que le prêtre casse l'hostie parce qu'elle est trop grosse pour être mangée, comme ça. Bon, toutes les bêtises sont écrites. En fait, pourquoi on brise l'hostie? C'est le signe de la mort. Crac. Et après, on détache un morceau du corps du Seigneur pour le mettre dans la précieuse sang. On unit le corps et le sang qui jusqu'alors étaient séparés. On les unit de nouveau parce que c'est le symbole, le signe de la résurrection. Et c'est au Seigneur ressuscité vivant que nous allons communier. Et après, le remerciement, eh bien, le prêtre trace sur nous le signe de croix. Ça montre finalement d'abord que c'est la croix qu'on porte au veston ou bien autour du cou. La croix, c'était en bois, c'était pas la croix de certains évêques en diamant. Hein. C'était, puis c'est aussi également la croix qui nous sert de bouclier, qui nous protège du démon. Et c'est la croix qu'on va donner au monde, on porte la croix. La messe, c'est ça. Et Padre Pio nous a appris à vivre cette messe. Parallèle entre la chronologie de la Passion et la chronologie de la messe. Il nous a dit des choses extraordinaires, Padre Pio. Il est venu, envoyé par Dieu, pour nous faire comprendre ce message-là. C'est pas quelqu'un qui naît pour montrer des stigmates. Et les stigmates, il en a souffert beaucoup. Il y a la photo qui est parue partout, là, même dans ce livre-là, où je suis en train de parler avec lui. J'étais beau gosse à ce moment-là, j'avais des cheveux. Ben oui, on se déplume. Il y en a certains qui se déplument plus que d'autres, d'ailleurs. Hein. Bon. Oui, il y en a qui ont fait des velodromes à moustiques, là. Hein, patinoire à mouches, c'est vrai. Mais en fait, celui qui a fait ces photos, il s'appelle Vinelli. Vinelli, j'ai bien connu le lieu. Mais lorsque Padre Pio a été stigmatisé le 20 septembre 1918, lui, il avait peut-être 14 ans, 15 ans. Il servait la messe à Padre Pio le matin. Et quelques jours après la stigmatisation, il entend Padre Pio qui parle avec Jésus. Il était à genoux là, c'est toujours le même hôtel. Et alors le curieux, c'est que la grâce, le miracle, ça a été que Padre Pio parlait, donc l'enfant comprenait, mais Padre Pio répétait les phrases que Jésus lui disait. Donc il entendait, demande et réponse. Alors Padre Pio disait, Seigneur, enlève-moi s'il te plaît. Non, répond le Seigneur, je te les garde, je te les ai donnés, il faut que tu les gardes. Seigneur, fais-moi souffrir tout ce que tu veux, mais enlève-moi ces signes extérieurs. Non, disait Jésus, j'ai besoin de ça pour servir de témoignage, pour attirer les gens. Le Seigneur, fais-moi... Non, tu garderas ces plaies 50 ans, et le 50e anniversaire, on le fêtera ensemble là-haut. Or, quand le 22 septembre 1968, Padre Pio a dit la dernière messe pour les groupes de prière, à la fin de la messe, il y a eu un espèce de collapsus, un petit...